France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque semaine, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui notre invitée romancière, essayiste, a choisi d'évoquer une œuvre que quelques mots-clés suffisent à identifier. Si je vous dis haute société anglaise, monologue intérieur, flux de conscience, le tout en une journée de la vie d'une femme et en pleine chaleur d'un mois de juin des années 1920, je pense que vous aurez peut-être deviné. Et oui, c'est bien Mrs. Dalloway de Virginia Woolf.
Words do not live in dictionaries. They live in the mind.
Les mots ne vivent pas dans les dictionnaires. Ils vivent dans l'esprit. Si vous en voulez la preuve, réfléchissez à la façon dont souvent, dans les moments d'émotion où nous en avons le plus besoin, nous n'en trouverons aucun. Et pourtant, le dictionnaire est là. 500 000 mots sont à notre disposition, par ordre alphabétique. Mais pouvons-nous les utiliser? Non. Parce que les mots ne vivent pas dans les dictionnaires. Ils vivent dans l'esprit. Et comment vivent-ils dans l'esprit? De façon variée et étrange, un peu comme les êtres humains vivent, s'arrangeant les uns avec les autres, se rencontrant et tombant amoureux. C'est vrai qu'ils sont moins liés par des cérémonies et des conventions que nous. Les mots royaux rencontrent les roturiers. Les mots anglais épousent les mots français, allemands, indiens, africains, s'il leur plaisent. En effet, moins nous enquêtons sur le passé de notre jeune mère anglaise, mieux ce sera pour la réputation de cette dame.
Bonjour Belinda Cannon.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes romancière et essayiste, vous avez enseigné la littérature à l'université, vous avez écrit de nombreux romans et ouvrages, des essais sur l'écriture, le désir ou encore l'imposture. De vous vient de paraître « Venir d'une mère » aux éditions Stock, dans la désormais fameuse collection Ma nuit au musée, mais vous avez aussi écrit Comment écrivent les écrivains aux éditions Thierry Marchez, livre dans lequel vous donnez la parole à plusieurs écrivains comme Maria Pourchet, Nicolas Mathieu, Cécile Gilbert, entre autres. Et là, justement, on vient d'entendre une archive de votre écrivaine préférée de cœur, Virginia Woolf. C'était en 1937 et elle parle dans cette archive des mots, justement. Qu'est-ce que ça vous fait de l'entendre et précisément sur ce sujet, Belinda Cannon?
Eh bien, c'est très émouvant, d'abord parce que, comme on sait, c'est la seule archive sonore de Virginia Woolf, donc c'est la seule occasion d'entendre sa voix. Et entendre un écrivain parler des mots, évidemment, on a l'impression qu'on est au cœur du sujet. Et elle dit vraiment beaucoup de choses très intéressantes dans ce texte. Elle le dit vite, là, quand même. Mais quand on le lit en détail, elle dit beaucoup de choses intéressantes. Et notamment, elle parle du pouvoir qu'ont les mots. Elle dit leur vie privée et notre inconscient, par exemple. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup parce que, justement, dans Comment écrivent les écrivains, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de voir comment les écrivains se donnaient les moyens quotidiens ou réguliers dans leur processus d'écriture d'avoir accès à l'infraconscient, parce qu'à mon avis c'est avec ça qu'on fait de la littérature, c'est pas avec des idées, c'est pas avec des présupposés sur ce que ça doit être, c'est quand on arrive à se rendre disponible à l'infraconscient. Et Virginia Woolf dit cela des mots eux-mêmes, elle souligne et ça, elle le fait à plusieurs reprises, elle a cet accès, elle cherche cet accès à l'infraconscient pour travailler.
Redites-moi la phrase, Belinda Cannon. La vie privée des mots, c'est leur inconscient, c'est ça?
C'est notre, attendez,
c'est notre inconscient, vous l'avez.
Elle dit, oui, j'ai relu le texte, je ne savais pas que vous alliez le passer.
Ah ben non.
Non, mais elle dit notre inconscient et leur vie privée. Vous voyez?
Moi, j'avais inversé. Vie privée et notre inconscient.
Ouais.
Alors, pourquoi avoir choisi Virginia Woolf, Belinda Cannon?
Écoutez, c'est parce que lorsque je l'ai lu, alors, je ne sais pas quel âge j'avais peut-être 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus exactement.
Est-ce que ce n'est pas trop jeune? On va revenir sur l'âge où on lit Virginia Woolf.
Justement, mais vous savez, trop jeune dans une jeunesse d'écrivain, parce que malgré tout, je pense que j'ai toujours voulu et su que je serais écrivain, ça n'est pas si tôt. En tout cas, je l'ai lu à cet âge-là et avec un sentiment... Je fais une parenthèse, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de livres qu'on lit trop tôt. Mais moi, quand j'ai lu Virginia Woolf, ça a été comme j'ai compris, je me suis dit que ah bon, on peut faire ça avec la littérature? Eh ben, je vais essayer de ce côté-là. Et vraiment, ça m'a fait cet effet de révélation. On peut faire ça avec la littérature. J'avais jamais rien lu tel.
Alors, faire ça quoi?
Alors, justement,
ça va être tout l'objet de l'émission, oui. Parce qu'on va entendre des textes de Virginia Woolf, mais aussi d'un autre auteur, je l'annonce tout de suite, qui vous tient énormément à cœur. C'est Diderot. Alors, pour moi, ils n'ont rien à voir tous les deux ensemble. Donc, on va y revenir. Mais alors, déjà, Woolf, c'est quoi faire ça, quoi? C'est vrai que c'est assez indescriptible.
Si moi, je peux le décrire.
Alors.
Ah, je vous assure.
Ah, bah, allez-y.
Oui. Faire ça, c'est jouer avec les potentialités des techniques narratives de telle façon qu'on bouleverse les modes habituels de raconter des histoires. C'est-à-dire, moi, j'étais nourrie, comme tout le monde, avec la littérature du 19e, un peu du 18e, mais surtout du 19e. Et tout à coup, je découvre...
Les grands romans.
Voilà, les grands romans.
Zola, comme, Balzac.
Voilà, Flaubert, Stendhal, que j'aime toujours autant d'ailleurs. Mais avec Virginia Woolf, on voit qu'on peut jouer pour restituer la vie intérieure. On peut jouer avec les techniques narratives. Donc moi, je dirais que c'est une rencontre presque technique avec elle. Pas seulement. Mais il y a aussi ça. Et quand on écoutera le texte qu'on a choisi tout à l'heure, vous verrez, je peux vous en parler un moment, vous verrez comment elle joue à restituer la vie intérieure de Mrs. Dalloway.
Mais alors moi, c'est une question qui me fascine et c'est la question, j'ai l'impression, qui vous anime, qui vous habite, Belinda Cannon, c'est comment on fait pour restituer une vie intérieure. Voilà, vous avez cité, on a entendu cet archive de Virginia Woolf, mais c'est presque un paradoxe. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on use de techniques, d'artifices pour restituer quelque chose qui est du côté de la vitalité. Mais à ce moment-là, on pourrait très bien dire, voilà, on va chez le psy et puis on s'enregistre et puis on fait un compte-rendu de ce qui a été dit. Ou juste, même d'ailleurs sans la médiation d'un psy, on s'entend, on s'écoute, on écrit spontanément. C'est pas un peu artificiel de vouloir restituer avec des techniques narratives quelque chose de l'ordre de la spontanéité vitale ?
Si. Bien sûr, mais toute la littérature, je veux dire un truisme, mais toute la littérature et tous les arts, ce ne sont que des artifices. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune manière de restituer rien. C'est toujours à l'aide d'artifices qu'on va restituer le réel, quel qu'il soit. Et donc on peut choisir d'exprimer le réel, la réalité qui entoure un personnage. On peut la restituer à travers la perception qu'en a le personnage. C'est ça le flux intérieur, tel qu'il s'invente au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, début XXe. C'est-à-dire que tout à coup, on ne va pas dire « il y a un arbre, il y a une rue, il y a un personnage qui arrive ». On va se placer à l'intérieur de la psyché d'un personnage et ce qu'on va raconter du réel, c'est ce que ce personnage perçoit de la réalité autour de lui. Alors, il y a des tas de niveaux de ce qu'il perçoit. Il y a, en effet, quand Virginia Woolf est dans le parc, elle voit un canard. Donc, moi, lecteur, je vois le canard, mais parce que Mrs. Dalloway l'a vu. Mais il y a aussi d'autres choses, et c'est ça l'invention du flux de conscience. Il y a non seulement ce que le personnage voit, par exemple ce canard, mais il y a tout à coup une émotion qui lui vient sans qu'elle sache pourquoi, à la vue de ce canard. Et puis, il y a tout à coup un souvenir qui peut être lié... Bon, je reste autour du canard, vous me pardonnerez.
Ça me va très bien, le canard, c'est très clair.
Mais il y a aussi une association d'idées qui lui vient à partir du canard et qui la plonge dans un passé plus ou moins lointain. Et puis, il y a aussi ce petit vent, parce qu'on est le matin, il fait beau, mais il y a quand même un petit vent. Donc, tout à coup, elle a une sensation physique de la fraîcheur. Tous ces niveaux-là, c'est ça l'idée du flux de conscience, encore une fois, tous ces niveaux de perception, de souvenir, d'émotion, etc., viennent se mêler dans un flux. C'est ça le flux, en fait. Donc, vous voyez, c'est une manière tout autre de raconter la réalité, le réel. D'ailleurs, les théoriciens ont dit, avec le flux de conscience, on est au plus près, enfin, on avance encore sur le terrain du réalisme, alors que ce roman n'a plus du tout de rapport, ce type de roman n'a plus de rapport avec le réalisme du 19e.
J'ai posé une question un petit peu bête ou un petit peu revêche, Belinda Cannon, c'est qu'est-ce que ça change de savoir, de lire « Il y a un canard » et « Je vois un canard et une brise me caresse le visage et je repense à mon amour, à l'amour de mes 18 ans ». Qu'est-ce que ça change en termes de plaisir de lecture, mais aussi presque en termes psychologiques. C'est-à-dire, pourquoi cette technique littéraire, pourquoi c'est important d'avoir accès à une vie intérieure ? En quoi c'est intéressant ?
Là, vous posez encore une fois la question de tout l'art. À quoi ça sert de représenter le réel ? À quoi ça sert
Et puisque le réel, une réalité intérieure.
Il se trouve que là, c'est le réel tel qu'il est tamisé par la réalité intérieure des personnages. Chaque fois, je crois qu'à toutes les époques, en réalité, le réalisme, ce qu'on perçoit du réel, comment on le restitue, le réalisme, c'est vraiment l'objectif de tous les arts depuis les Grecs. On cherche toujours à approcher, à saisir quelque chose du réel. C'est, j'ai envie de vous dire, à quoi ça sert d'être un sujet conscient de sa place dans le monde, du monde tel qu'il entoure ? Qu'est-ce que c'est être un sujet conscient dans le monde, etc.
Donc c'est ça l'enjeu, c'est un enjeu existentiel de comprendre la place qu'on a, ou c'est un enjeu aussi de vérité, c'est-à-dire de comprendre où on est, ce qu'on regarde, ce qui s'y cache, est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs, est-ce que quelque chose se cache ou pas ?
Oui, mais vous venez de le dire.
Enjeu de vérité ou enjeu existentiel, le tout ?
Le tout, moi je ne distingue pas du tout alors. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Comment vous les distinguez ?
Ben, c'est pas pareil de vouloir comprendre comment le monde fonctionne et de se dire c'est ça, ça fonctionne de cette manière-là, c'est vrai. Ou alors, voilà, mes souvenirs s'imbriquent de cette manière, ça me permet de comprendre mon histoire à moi et moins la place que j'ai, moins comment le monde fonctionne. Vous voyez, c'est juste un rapport du sujet dans le monde ou du sujet avec lui-même.
Oui, mais c'est parce
que... monde avec lui-même.
Parce qu'on psychologise trop le flux de conscience.
Alors voilà, c'est bien qu'on revienne sur ce terme.
Mais oui, c'est pas une approche psychologique du personnage que nous propose le flux de conscience. C'est beaucoup plus que ça.
C'est un terme qui revient beaucoup, voilà, dès qu'on parle de Virginia Woolf, je l'ai dit, qu'est-ce que c'est que le flux de conscience, c'est un terme qui est aussi un petit peu galvaudé parce qu'on a l'impression que dès qu'on lit des lignes avec une personne, un personnage qui fait part de ses sentiments, on dit c'est un flux de conscience. C'est quoi un flux de conscience ? C'est quoi la spécificité ?
Encore une fois, l'idée c'est finalement, dans notre flux de conscience, il n'y a pas que notre conscience. Ça c'est quand même très important. Un, il n'y a pas que notre conscience et deux, il n'y a pas que notre psychologie. Il y a autre chose. Tout cet afflux de souvenirs et d'émotions, ou allons plus loin, regardez ce qu'a fait Nathalie Sarraute, qui est pas, d'après moi d'ailleurs, a juste exploité un filon qui était déjà dans Virginia Woolf. Elle a exploité ce filon, ce qu'elle a appelé les tropismes, la sous-conversation. C'est-à-dire que dans notre psyché, disons, il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas forcément conscience, nous n'avions pas forcément conscience tant que la littérature ne l'avait pas pointé. Et au fond, avec Virginia Woolf, tout à coup, on devient conscient des multiples strates qui habitent notre psyché à un moment donné. Et vous savez, le grand inventeur et théoricien surtout du monologue intérieur, Édouard. Édouard Dujardin dit cela. Il dit le monologue intérieur, et en fait il parle du flux de conscience, il n'a pas encore ce mot-là. Le monologue intérieur, c'est saisir la pensée dans son tout venant, telle qu'elle se présente à l'esprit. Mais avant cette réflexion sur le flux de conscience, est-ce qu'on avait bien conscience justement que dans la psyché, il n'y avait pas que de la psychologie et de la conscience ? Est-ce qu'il y avait aussi, on avait bien conscience qu'il y avait aussi tout ça, ces micro-sensations, ces impressions, ou bien ces tropismes, cette sous-conversation qu'on se tient à soi-même et face dans l'interaction avec les autres ? Je veux dire qu'il y a beaucoup de niveaux qui ont été mis au jour par l'invention du flux de conscience.
On va écouter, Belinda Cannon, un premier extrait de Mrs. Dalloway, mais juste avant, je précise que le livre est paru en 1925, c'est le quatrième livre de Virginia Woolf. Alors, l'histoire de Mrs. Dalloway s'est présentée ainsi, c'est souvent les quatrièmes de couverture des éditions de Mrs. Dalloway, une journée dans la vie d'une femme de la haute société anglaise, du matin jusqu'au soir, avant une réception qu'elle organise. On est au mois de juin 1933, on est après la Première Guerre mondiale. Est-ce que ça vous satisfait comme présentation de Mrs. Dalloway ?
Bah, factuellement, 1923, factuellement, c'est vrai. Il y a ces éléments-là.
Mais ça dit rien.
Ça ne dit rien. Mais c'est vous, si vous prenez Ulysse de Joyce, vous pouvez dire que c'est 24 heures d'errance de la vie de Léopold Bloom dans Dublin. Donc voilà, on peut toujours réduire. Parce que justement, l'important, ce ne sont pas les faits, les gestes, les actes, les déambulations. C'est tout ce contenu, je dirais, presque vertical de la vie du personnage. C'est pourquoi, d'ailleurs, probablement, souvent, les romans du monologue intérieur se passent sur une période très courte. 24 heures Mrs. Dalloway, 24 heures Léopold Bloom.
Pourquoi c'est important qu'il y ait cette unité de temps et de
C'est surtout parce qu'on va travailler, le romancier va travailler dans la verticalité. Et ça va donner, il va falloir 14 pages pour décrire une minute et demie, parce qu'il va se passer tellement de choses dans cette minute et demie que le romancier va déployer dans le temps. Forcément, il ne peut faire que ça, c'est un art du temps, le roman. Mais donc, il va lui en falloir des pages pour cette minute où il s'est passé psychiquement, verticalement, tellement de choses.
Alors, on va écouter seulement une minute 50 de Mrs. Dalloway et Belinda Cannon.
Bonjour à vous, ma chère Clarissa.
Lança Hugh, avec un peu trop d'emphase pour quelqu'un qu'elle connaissait depuis l'enfance.
Où allez-vous donc ainsi ?
J'adore marcher dans Londres, dit Mrs. Dalloway. C'est tellement mieux que de marcher dans la campagne. Il venait juste d'arriver en ville pour, hélas, courir les docteurs. La plupart des gens venaient courir les expositions, les opéras, sortir leurs filles. Mais les Whitbread, eux, venaient courir les docteurs. Clarissa ne comptait plus les visites qu'elle avait faites à Evelyn Whitbread dans toutes ses maisons de repos. Evelyn était donc de nouveau malade ? Evelyn n'est pas du tout dans son assiette, dit Hugh, en bombant les lèvres et le haut de son corps plein, viril, magnifique, parfaitement rembourré, bien que toujours un rien guindé, sans doute à cause de son petit poste à la cour, pour signifier à Clarissa Dalloway, sa vieille amie, que sa femme souffrait d'une indisposition, rien de méchant, qu'il lui faudrait comprendre à demi-mot, sans le forcer surtout à préciser. Mais bien sûr qu'elle comprenait, quel tracas. Émue comme une sœur, et soudain contrariée par son chapeau, tout sauf un chapeau de matinée, ce chapeau. À côté de Hugh, disons qu'elle se sentait... Il se remit en chemin en la saluant excessivement bas. Elle n'avait vraiment rien à envier à une jeune fille de 18 ans, oui. Bien sûr qu'il viendrait à sa soirée. Evelyn y tenait absolument. Mais peut-être assez tard, car il devait d'abord se rendre à celle de Buckingham, avec l'un des garçons de Jim. À côté de Hugh, disons qu'elle s'était toujours sentie fluette, un peu fillette, mais aussi pleine d'affection, sans doute parce qu'elle le connaissait depuis toujours.
Dalloway de Virginia Woolf. Dans la traduction de Nathalie Azoulay, c'est vous, Belinda Cannon, qui avez choisi ce passage. On est au début du roman. Alors, on va reprendre les termes que vous employez. Factuellement, Clarissa Dalloway se promène dans Londres et rencontre son ami d'enfance, Hugh. Mais il se passe tellement d'autres choses dans cet extrait. Vous venez de me dire, c'est génial, on pourrait en parler pendant une demi-heure, on n'a pas le temps, on a d'autres textes à écouter. Mais quand même, dites-nous tout de suite, voilà, qu'est-ce que vous trouvez si génial dans ce passage ?
Bien d'abord, ce que je trouve génial, c'est que dans ce passage, outre les deux premières remarques, « Bonjour à vous, ma chère Clarissa, Lança Hugh avait un peu trop d'emphase », à part cet endroit où on entend parler son interlocuteur, tout le reste du texte, on entend seulement la voix intérieure de Mrs. Dalloway. Là, on est typiquement dans un morceau de flux de conscience. Et ce qui est génial, c'est la multiplication des techniques narratives. Là, par exemple, on est dans ce fameux indirect libre.
Alors, allez-y, expliquez-nous tout, décryptez-nous ce texte, la technique narrative de Virginia Woolf.
Eh bien, il venait juste d'arriver en ville pour, hélas, courir les docteurs. Si on n'avait pas le hélas, par exemple, on pourrait croire que c'est un narrateur qui est en train de nous passer des informations.
Mmh. Il y a un arbre, par exemple.
Voilà, il y a un arbre,
il y a un canard.
Il était 5 heures, etc. Ça pourrait être un narrateur qui fait son boulot de narrateur, c'est-à-dire qui nous passe des informations. Sauf que là, non, on comprend tout de suite qu'on est dans la tête de Virginia, de Clarissa, puisqu'il y a ce hélas qui exprime un sentiment. Donc le narrateur, ça n'exprime pas des sentiments, c'est une voix complètement neutre. Donc là, on comprend qu'on n'est pas dans cette voix neutre, on est bien dans la tête de Clarissa, si ça nous avait échappé. Et tout ce qui va être passé comme information, et il y en a des informations dans ce petit bout-là, c'est uniquement celles qui sont filtrées par la tête de Clarissa. Et d'ailleurs, il y a bien des moments où, regardez la toute fin du texte, quand il dit « bien sûr », alors je ne sais plus où c'est, « bien sûr qu'il viendrait », oui c'est ça, « bien sûr qu'il viendrait à sa soirée
oui. »,
mais on n'a pas entendu la question.
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, Clarissa a dû lui dire « mais bien sûr, vous viendrez, n'est-ce pas, à ma soirée ?» Mais on ne l'a pas, ça. Parce qu'on a ce qui a été retenu, filtré, décanté par l'esprit de Clarissa. Donc, ce qui compte, c'est ce que l'esprit de Clarissa perçoit. Et par exemple, elle est tout à fait contrariée parce qu'à ce moment-là où elle est en train d'avoir une conversation tout à fait normale avec son amie, tout à coup, elle se dit « mince, j'ai pas le bon chapeau
oui. !»
C'est pas un chapeau de matin. C'est ça aussi le flux intérieur. C'est à un moment donné de donner ce genre d'indication qui a très fugitivement traversé l'esprit
assez trivial.
De Clarissa. Parfaitement trivial, le chapeau, avoir un chapeau, c'est frivole. Mais ça lui a traversé l'esprit, ça a créé une petite émotion, celle de ne pas avoir vraiment le vêtement qu'il fallait. Donc c'est dans le flux intérieur, au même titre que les informations plus importantes, disons, en termes d'intrigue.
Oui, et puis aussi les informations comme les souvenirs, parce que là on comprend toute leur relation. On comprend que c'est une relation qui n'est pas n'importe qui, parce qu'au départ on pourrait se dire que Hugh est une relation mondaine, qu'elle prépare sa réception, elle lui dit au fait « est-ce que vous venez ce soir ?» Elle prend des nouvelles très polies de Evelyn, sa femme, qui est tout le temps malade. Mais non, on comprend qu'il y a un rapport beaucoup plus ténu. Et c'est ça qui est assez fascinant quand on lit. Et d'ailleurs, je pense, Belinda Cannon, qu'on pourrait passer une heure à ne faire que lire du Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, pour comprendre tous les niveaux, c'est-à-dire le chapeau, les souvenirs. Mais là, ce qui est un petit peu ambigu, c'est qu'on est dans la tête de Clarissa et au fur et à mesure du roman, on va s'apercevoir qu'on n'est pas uniquement dans la tête de Clarissa. Pourquoi ce texte qui n'est pas un narrateur omniscient n'est pas non plus un jeu ? C'est pas non plus juste le filtre intérieur de Clarissa Dalloway à la première personne ?
Parce qu'en effet, elle va se permettre de passer dans les psychés de plusieurs personnages au cours du roman. Et par exemple, de ces mêmes personnages, même Hugh, elle peut entrer aussi, elle se donne l'autorisation. Et ça aussi, probablement que ça m'a tellement touchée en découvrant Mrs. Dalloway. Non seulement elle nous fait pénétrer dans la psyché du personnage éponyme, mais aussi dans celle des autres. Elle n'a pas de... Il y a quelque chose d'extraordinairement libre dans ce texte. Et peut-être que par rapport aux toutes premières tentatives, comme celle de ce fameux Édouard Dujardin qui avait écrit un roman.
Alors, qui est Édouard Dujardin ? Précisez-nous. Vous avez failli l'appeler Jean Dujardin.
Oui.
Mais Édouard Dujardin, moi, je n'ai pas forcément la référence. J'ai fait comme si, mais en fait, non.
Non, non, mais il est très peu connu et à juste titre. C'est-à-dire qu'il a écrit un très mauvais... Il a écrit un mauvais roman qui s'intitule Donc les lauriers sont coupés. Et il est resté dans notre... C'était un écrivain de la période symboliste, plutôt, mais il est resté dans notre mémoire parce que c'est lui qui a écrit le premier texte strictement en monologue intérieur.
Mmh.
C'est-à-dire qu'il prend un personnage...
Et on est à quelle époque, à peu près ? Fin du
19e. Fin du 19e,
donc
oui.
Avant Joyce, bien avant
Et Joyce
Woolf.
Reconnaîtra sa dette, hein, d'ailleurs. Mmh. Joyce le lit dans une gare, il tombe sur Les lauriers sont coupés.
Donc ce mauvais roman de gare.
Le mauvais roman, mais il comprend tous les possibles de l'invention formelle que représentent les lauriers sont coupés. Donc les lauriers sont coupés, un type erre dans la ville, il se demande s'il va aller dans un bar ou pas, dans un café ou pas, il pense à sa maîtresse coquette qu'il a. Le fond, c'est une histoire naturaliste, aucun intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sort pas de la tête du protagoniste, Daniel Prince, je crois. On ne sort pas de sa tête et tout le réel est filtré par ce qui lui vient. Et lui, Dujardin l'a écrit en strict monologue intérieur. C'est-à-dire, là, on a quand même des mots du narrateur dans Virginia Woolf. Mmh. Avec Dujardin, c'est comme si, c'est ce que dit donc Dujardin, il avait mis une caméra dans la tête du personnage et qui saisissait tout ce qui passe dans son cerveau. Mmh. Vous voyez ? Donc, c'est une sorte de sans-filtre, de la pensée tout venant. Et donc, Joyce a vu ça et il a repéré la technique. Il a vu le bénéfice de la technique. Et il fait Ulysse, ce qui est quand même bien autre chose que les lauriers sont coupés. Mais il l'a trouvé chez Dujardin. Pardon. Et Dujardin a théorisé. Quand il a vu ce qu'on faisait, il a reconnu que Joyce était quand même beaucoup mieux que lui. Mais quand même, il a voulu réfléchir, théoriser cette invention du monologue intérieur. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le monologue intérieur.
Et qu'est-ce que fait Virginia Woolf de plus que Joyce, parce que je précise quand même qu'elle détestait Ulysse de Joyce en trouvant que c'était égotique, vulgaire, et que ça n'était pas à la hauteur, peut-être, de ce qu'elle imaginait être un monologue intérieur qui serait des pensées élaborées, des beaux souvenirs, un petit peu de sarcasme, quelque chose de beaucoup plus élégant.
Oui, elle exagère sans doute un peu dans sa détestation, peut-être sa rivalité avec Joyce. Moi, je me suis beaucoup intéressée à l'idée de la position égotique de Joyce qu'elle incrimine. Mmh. Parce que je crois qu'elle reproche à Joyce d'avoir fait un peu le cabotin. Il a joué, il a fait le malin avec son utilisation du monologue intérieur, etc. Il a un peu posé. Tandis qu'elle, elle est dans une position très modeste. Ça l'intéresse pas. Alors qu'elle est si alourdie d'elle-même, à cause de sa maladie mentale, mais elle n'est pas du tout égotiste, elle, au contraire. Elle cherche vraiment quelque chose hors d'elle-même.
C'est pas que Mrs. Dalloway, c'est en fait Mrs. Dalloway qui est en permanence en contact avec d'autres qu'elle-même, avec d'autres psychés, avec d'autres regards. C'est une forme un peu de presque de monologue extériorisé ou de conscience élargie, on pourrait dire.
C'est ça, la conscience de Mrs. Dalloway lui permet de saisir le monde autour d'elle. C'est-à-dire, elle perçoit tout dans l'ombre de ce matin-là. Et d'une part, et ensuite, en effet, le texte permet d'entrer dans la psyché des autres, d'autres autour d'elle, ou de souvenirs d'autres autour d'elle.
Alors là, on n'est pas encore dans la psyché de Jung, mais j'aimerais quand même, à partir de ce texte, Belinda Cannon, qu'on précise la modernité de ce texte, c'est-à-dire de le lire là, en 2025, sur la critique des médecins, sur la santé mentale, on pourrait dire aujourd'hui, on n'employait pas ce terme-là à l'époque de Virginia Woolf, et il n'y a pas non plus si peu de temps, mais sur les femmes, par exemple, là, cet extrait, Evelyn, la femme de Hugh, elle court les médecins parce qu'elle est mal dans sa peau, elle est déprimée. Et on va avoir comme ça deux traits extrêmement frappants, extrêmement modernes, qui sont le sarcasme, l'ironie, les sous-entendus, le second degré, et puis cette idée quand même de mettre en avant tout ce qui est malaise psychique, et on l'entend très bien dans ce texte.
Oui, et d'ailleurs, l'alter ego de Clarissa, c'est Septimus, l'autre personnage qui traverse le texte en parallèle, je dirais.
Alors, parlez-nous de Septimus. Ouais.
Oui, Septimus, lui, c'était une question qui intéressait beaucoup Virginia Woolf. Hein. Au lendemain de la guerre de 14-18, il y avait beaucoup de soldats qui étaient traumatisés. On était en train de mettre au point, justement, la notion de
syndrome post-traumatique
et qu'on commençait à comprendre. Et donc Septimus, il fait vraiment partie de cette catégorie de personnes, d'anciens, de vétérans qui ont été abîmés véritablement par la guerre. Et donc il traverse Londres en parallèle avec Clarissa Dalloway. Il n'y a aucune chance qu'il la rencontre vraiment. Ils ne se rencontrent pas vraiment physiquement. Et ils se rencontrent d'ailleurs à peine dans le texte. Ils se rencontreront à la toute fin du texte lorsque le médecin qui s'est occupé de Septimus va l'évoquer devant Clarissa, va évoquer son suicide.
Le psychiatre Bradshaw, qui arrive en retard à la réception. Et donc, c'est la femme de Bradshaw qui dit « Désolée, on a été retenus, il y a eu un mort. » Et Clarissa est outrée. Elle est outrée, c'est-à-dire qu'elle dit « Comment oser parler de mort à ma réception ? » Alors là, on a quelque chose de l'ordre du déni, du refoulé, surtout pas de venir assombrir. Mais c'est vrai que cette rencontre, elle a jamais lieu entre ces deux personnages. Que Septimus, on le rencontre, Belinda Cannon, tout à coup. Et puis on se dit, mais pourquoi on nous parle de Septimus qui n'a rien à voir avec la haute société anglaise, qui revient du front, qui s'est marié avec une Italienne ? On voit pas le rapport au début.
Oui, parce que Woolf a voulu faire de Septimus une option, une expansion de Clarissa. C'est l'expansion malade de Clarissa. C'est l'expansion qui a décompensé de Clarissa. Et donc, elle l'a mis dans le roman comme une variante de Clarissa. Et par ailleurs, c'est très subtil la manière dont ils se rencontrent quand même dans le texte. Ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, les passages avec Septimus. C'est par exemple, la voiture du Premier ministre passe. Donc Clarissa voit passer la voiture du Premier ministre. Mais quelque part un peu plus loin, Septimus la voit aussi. Donc cette voiture qui passe, c'est la manière de passer de Clarissa à Septimus. On a un son aussi, le son qu'elle entend, Big Ben qui sonne.
Les cloches qui rythment la journée.
Voilà, qui rythment toute la journée. Et bien, à un moment donné, Septimus l'entend aussi ailleurs. Donc, vous voyez, c'est très subtil, en fait. Le passage se fait...
Il y a quelque chose, il me reste que de cinématographique. On a l'impression d'un long plan séquence où, en fait, on est porté d'un personnage à l'autre en fonction, effectivement, de la voiture du Premier ministre, des cloches, mais aussi du vent. Le ciel a une importance. Et tout au long de la journée, on est donc guidé par le vent, par les sons de la cloche, jusqu'à cette fameuse réception que l'on attend et qui va clôturer le roman Mrs. Dalloway. On va tout de suite en écouter un extrait.
Il regardait les gens partir, les salons se vider, les sols tout jonchés de choses. Même Ellie Anderson s'en allait, presque la dernière de tous, alors que personne ne lui avait adressé la parole. Mais elle avait voulu tout voir pour tout raconter à Edith. Richard et Elizabeth étaient plutôt contents que ce soit fini, mais Richard était fier de sa fille. Il n'avait pas eu l'intention de le lui dire, mais il ne put s'en empêcher. Il l'avait regardée, dit-il, et il s'était demandé « Mais qui est cette ravissante jeune fille ?» Et c'était sa fille. Elle en fut très heureuse, mais son pauvre chien qui hurlait. Richard a fait des progrès. Vous avez raison, dit Sally. Je vais aller lui parler. Je vais lui dire bonsoir. Qu'est-ce que l'intelligence ? Dit Lady Rossiter en se levant. À côté du cœur.
Je vous rejoins,
dit Peter. Mais il resta assis. Pourquoi cette terreur ? Pourquoi cette extase ? Se demanda-t-il. Qu'est-ce donc que cette sensation extraordinaire qui m'envahit ? « C'est Clarissa, dit-il. Elle arrivait. Elle était là. »
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et le souffle de Virginia Woolf dans Mrs. Dalloway, ce sont les toutes dernières lignes que vous avez choisi d'entendre, Belinda Cannon. Pourquoi ces lignes? Un de mes amis a lu Mrs. Dalloway et m'a dit « J'espère que vous allez diffuser ces lignes, c'est les plus belles du roman ». Eh bien moi, je me suis demandé pourquoi elles étaient aussi magnifiques.
D'abord, on retrouve cette multiplicité des voix qu'on a déjà évoquées. Hein. On entend ici Sally, on entend Lady Rossiter, on entend Peter Walsh, on entend Clarissa, bien sûr. Et donc, en si peu de place, de lignes, on entend toutes ces voix.
On a quoi, une vingtaine de lignes, hein, pas
voilà.
plus.
Et puis, mais par exemple, regardez, elle en fut très heureuse, virgule. Mais son pauvre chien qui hurlait, ce pauvre chien qui hurlait, c'est sublime. Mais parce que bien sûr, je suis là, je pense à quelque chose de tellement important pour moi. C'est la fille qui est heureuse que son père la trouve si belle. Et pendant ce temps, elle perçoit aussi le chien qui hurle. Donc vous voyez, il y a vraiment une saisie réaliste une tentative, parce qu'on n'y arrive jamais, hein, c'est une courbe asymptotique, le réalisme, on tend vers, mais on n'y arrive jamais. Mais il y a cette saisie réaliste du monde. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que le roman se termine avec Peter Walsh, qui est le grand amoureux qui n'a pas eu Clarissa, puisque c'est Monsieur Dalloway qui a eu Clarissa. Donc, il court dans tout le roman, Peter Walsh, et comme cet amoureux transi, et déçu plutôt. Et vous savez ce que j'aime, moi, bon, il y a un retour aussi au démarrage, puisque Peter Walsh se dit « Mais qu'est-ce donc que cette sensation extraordinaire qui m'envahit ?» Pour moi, c'est vraiment la reprise qui vient boucler Clarissa Dalloway, qui vient de sortir de chez elle, qui, aux premières pages, pour le coup, qui sent l'air frais, qui voit la beauté du soleil, et hop, ça lui rappelle des sensations qu'elle a eues dans sa jeunesse, à Bourton, la maison familiale, etc. Donc il y a ça, il y a une espèce de façon de clôturer par le même type d'émotion. Et puis, pour moi, la beauté inexplicable, c'est « elle était là ». Et ce « elle était là », j'aurais bien aimé l'écrire, et probablement d'ailleurs j'ai dû parfois l'écrire en lui volant, dans ce « elle était là », dans cette... J'ai aucune réponse rationnelle à vous donner, mais que tout à coup le réel soit là, que tout à coup une personne soit là, et que ça vous pétrifie, que ça vous emplisse. Elle était là. C'est tellement simple. Il dit pas « elle était belle, elle était sublime, elle était extraordinaire, elle était intelligente ». Il l'a dit, ça. Non, elle était là, et c'est ça la sensation extraordinaire qui le saisit, et qui, pour le coup, est sans mots. Elle était là, c'est tellement simple.
C'est tellement banal, même.
Tout ce vocabulaire, toute cette richesse des sensations, des perceptions, et puis tout à coup, massive, cette évidence, juste, elle était là.
On a aussi, pas évoqué, mais vous venez un tout petit peu de le faire, Belinda Cannon, cette relation entre Peter Walsh et Clarissa Dalloway. Parce qu'en fait, voilà, factuellement, on l'a dit, c'est 24 heures de la vie d'une femme avant une réception dans Londres. Après, quand on n'est pas dans le factuel, on dit que voilà, il y a le flux de conscience. Mais en fait, c'est une merveilleuse histoire d'amour qui n'est pas ratée. Mais c'est presque une comédie romantique à l'envers. Leur histoire d'amour n'a pas pu avoir lieu. Elle a préféré Richard Dalloway, elle a eu une fille avec lui, Elisabeth, et c'est ça qui fait que leur histoire d'amour est la plus belle. S'ils avaient été ensemble, leur mariage aurait été raté. Peter Walsh ne cesse de le dire, il est agacé par elle en permanence, par ce sens des mondanités, et elle ne supporte pas son côté aventurier qui court les femmes. Donc c'est une histoire d'amour réussie parce que ratée.
Oui, c'est intéressant. que vous le disiez comme ça.
J'ai l'impression que je vous convainc pas beaucoup, mais bon.
Non, je vous écoute. Moi, les histoires d'amour ratées, ça me fait pas tellement fantasmer, en fait. Et donc, voilà. Non, vous avez raison. Ils ne se sont pas unis, associés. D'ailleurs, il y a une scène merveilleuse au milieu du livre où on est avec Peter Walsh qui voit débarquer, il y a une espèce de week-end, de soirée, de journée passée à la campagne chez les parents de Virginia, de
Mrs.
Clarissa.
Dalloway. Oui, alors, elle n'est pas encore
Mrs. Clarissa, Dalloway. Oui. C'est là que Richard va arriver. Peter Walsh voit arriver Richard et il se dit, dans la seconde, il va l'épouser. Et c'est très beau tout ce passage parce que ce passage dépeint la manière dont les deux personnages, parce que Clarissa aussi sent tout ce que sent Peter Walsh, ils sont vraiment connectés. Il y a vraiment quelque chose entre eux, ils partagent un espace mental.
Mais c'est ça là, leur histoire d'amour.
Ils se sentent absolument
réussie d'une certaine
ça.
Manière.
Ils partagent vraiment un espace mental, donc ils se comprennent, mais à demi-mot, ils se comprennent dans la nanoseconde. Et donc lui, par exemple, sait qu'elle va l'épouser. Et c'est incroyable, parce qu'elle ne doit pas encore le savoir à ce moment-là, mais Peter Walsh, il le sait. Donc il y a cette connivence absolument incroyable entre les deux personnages et la souffrance de Peter Walsh qui voit bien que ça ne va pas être lui, quoi.
Mais ils ne sont pas non plus dans le... C'est pas un roman du regret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Peter Walsh qui dit « si je m'étais mariée avec elle » et si seulement ça lui traverse l'esprit, mais c'est pas sous forme d'amertume ou de ressentiment. La vie est ainsi. C'est là où il y a une forme de résolution avec cette dernière ligne, c'est qu'elle était là et ça suffisait. Il n'y avait pas besoin d'avoir passé sa vie avec elle.
Absolument. En même temps, là où je nuancerais, moi je dirais qu'il y a quand même beaucoup de mélancolie dans Mrs. Dalloway. Elle n'est pas...
Mais pas du ressentiment.
Non, aucun ressentiment, mais elle n'est pas si contente que ça de sa vie, cette femme.
Ah
elle
bon
va faire sa soirée. Oui, moi je... Après, bon,
Peter Walsh n'est pas content de sa vie. Il est dans quelque chose, ça aurait pu être autrement, mais il n'est pas non plus dans le ressentiment. Mais elle, moi, il me semblait qu'elle adhérait, qu'en fait, elle ne faisait que renouveler en fait cet acquiescement à « j'ai voulu cette vie de mondanité à Londres avec Richard et ma fille Elisabeth ».
Oui, mais moi j'entends ça, j'entends aussi sa grande capacité qui était celle de Virginia Woolf de voir, de saisir les micro-sensations autour d'elle, de jouir vraiment d'une lumière, d'un son. Donc il y a ça chez Mrs. Dalloway, cette capacité d'être connectée à ce qui l'entoure, mais pour moi il y a quand même une mélancolie de sa vie.
On va écouter un autre texte, car le temps presse, Belinda Cannon, qui n'a rien à voir avec Virginia Woolf. C'est Diderot, mais peut-être allez-vous réussir à nous montrer le lien entre ces deux auteurs.
Qu'il fasse beau ou qu'il fasse laid, c'est mon habitude d'aller sur les 5 heures du soir me promener au Palais Royal. C'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant sur le banc d'Argenson. Je m'entretiens avec moi-même de politique, d'amour, de goût ou de philosophie. J'abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée, sage ou folle, qui se présente, comme on voit dans l'allée de foi nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courtisane à l'air éventé, au visage riant, à l'œil vif, au nez retroussé, quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. Si le temps est trop froid ou trop pluvieux, je me réfugie au café de la Régence. Là, je m'amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l'endroit du monde et le café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux ce jeu. C'est là que font assaut l'égal le profond, Philidor le subtil, le solide maillot, qu'on voit les coups les plus surprenants et qu'on entend les plus mauvais propos. Car si l'on peut être homme d'esprit et grand joueur d'échecs, comme l'égal, on peut être aussi un grand joueur d'échecs et un sot, comme Foubert et Maillot. Un après-midi, j'étais là, regardant beaucoup, parlant peu et écoutant le moins que je pouvais, lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de ce pays, où Dieu n'en a pas laissé manquer.
Le neveu de Rameau de Denis Diderot, c'est un texte écrit entre 1762 et 1773, donc sur une très longue période, mais qui a été publié de manière posthume en 1805. C'est un autre texte que vous nous avez indiqué, Belinda Cannon. Alors, on y voit des points communs tout de suite avec Virginia Woolf. Ça n'est pas Londres, c'est Paris, mais c'est une ville. La question du monologue intérieur, certes pas à la troisième personne avec ce narrateur omniscient, mais à la première personne. Mais il y a quand même une différence folle entre les deux. Hormis la période, c'est le rapport quand même à la tonalité, la joie de Diderot face à la mélancolie de Woolf.
Oui. Je ne prétends pas du tout qu'il y ait le moindre rapport entre les deux, sauf peut-être cette chose que vous avez mentionnée. Finalement, Diderot a écrit, a publié, enfin, ont été publiées de manière posthume toutes les grandes œuvres de Diderot quasiment. C'est-à-dire qu'il a consacré son énergie, sa force à publier l'encyclopédie, qui est une sorte de travail pour le collectif, direct pour le collectif, et sa propre œuvre, à laquelle il croyait beaucoup. Je veux dire qu'il n'a pas écrit à côté, comme ça, pour s'amuser. Il croyait à ce qu'il faisait, mais il a donné toutes ses forces pour l'œuvre collective, l'œuvre qui devait servir, au fond, le savoir, les connaissances, les hommes, et toute son œuvre importante a été publiée de façon posthume. Donc ça, cet oubli de soi, si on voulait, j'y vois un rapport entre les deux. À vrai dire, c'est une posture qui m'intéresse chez tout le monde et tout le temps. Et c'est pas forcément tous les deux, voilà. Mais, donc, je prétends pas qu'il y ait de rapprochement, mais tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Virginia Woolf. Je dois ajouter que moi, je ne m'intéresse qu'au flux de conscience. C'est-à-dire, tout ce que j'écris en fiction, c'est toujours, je cherche toujours à inventer quelque chose de l'ordre du flux de conscience. Je n'ai jamais écrit d'autres fictions que celles qui se passaient dans une ou deux têtes de personnages qui réfractaient le monde. Avec Diderot, pourquoi je voulais absolument qu'on parle de Diderot ? Donc pas du tout parce qu'ils se ressemblent, mais parce que vous savez, mon travail, au fond, en gros, se répartit entre deux grands courants, qui sont la fiction, qui était pendant 10 ans, je n'ai d'abord écrit que de la fiction, et puis ensuite, à partir au bout de 10 ans, je me suis mise à écrire des essais. Et c'est pour moi une activité qui me tient autant à cœur que la fiction, dans la mesure où, précisément, dans les essais, j'essaie aussi d'inventer des formes. Parce que si on n'invente pas de formes, ce n'est pas de la littérature non plus. Et donc dans les essais, j'essaie d'inventer des formes. Alors, je mets beaucoup de fiction dans les essais, j'invente des dialogues. Enfin, au moins un essai, par exemple, qui est entièrement avec 3 personnages. Et pourtant, c'est des idées. La bêtise s'améliore. C'est un essai sur le conformisme. Il est pourtant porté, cet essai, par 3 personnages qui dialoguent. Alors ça, je crois que c'est Diderot chez moi. J'adore Diderot. J'ai vraiment passionnément aimé Diderot. C'est vraiment, je dis toujours, c'est mon maître à danser. Parce que c'est chez lui que j'ai appris la rapidité, l'humour, l'alacrité, les pensées virevoltantes, etc. Et pour moi, il a été, il est toujours, je crois, alors je ne limite pas, mais vous avez entendu, dans Le Neveu de Rameau, on va entendre parler de musique de façon très sérieuse, on va entendre parler de la vie musicale à ce moment-là, dans les années 60 en Paris, on va entendre parler des conflits entre la musique française et la musique italienne, etc. Et en même temps, qu'il pleuve ou qu'il vente, c'est mon habitude d'aller sur les 5 heures du soir. Vous voyez, tout à coup, il y a ce ton joyeux et cette manière d'ancrer la pensée dans le vivant, dans le quotidien, qui est propre à Diderot.
Mais c'est vrai que chez Diderot, il y a quelque chose de l'ordre du désir. On fait face au désir, alors que pour retomber sur Virginia Woolf, on retrouve quand même quand il dit « mes pensées, ce sont mes catins ». En fait, c'est exactement la technique du flux de conscience de Virginia Woolf. Mais il y a une sorte d'appétit chez Diderot, même quand il écrit quelque chose, on va dire, de théorique, qu'on n'a plus forcément dans des essais, c'est-à-dire où, alors je peux pas réduire tous les essais, ce serait il y a tellement de formes différentes, mais on a quand même des sentiments de posture dans des essais, dans des textes universitaires qui sont peut-être nécessaires, mais qui effectivement perdent un peu la gourmandise de pourquoi on travaille sur un sujet, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans, qu'est-ce qui me traverse quand je suis en train d'écrire ou de lire un article, je sais pas moi, sur le statut de la virgule chez Proust. On aurait envie de savoir pourquoi quelqu'un passe 10 ans à travailler là-dessus. Or, c'est vrai que l'essai empêche ce genre de pensée qui aide à comprendre l'intérêt d'une vie pour ce qui semble être un détail pour d'autres.
Oui, parce que aussi il y a le problème d'un mot qu'on utilise, qui est celui de essai, qu'on utilise indistinctement pour 2 choses que moi je distingue fort, surtout que j'ai pratiqué les 2. Il y a d'une part l'essai universitaire, c'est-à-dire où on donne des informations, on analyse de façon très sérieuse et savante. Et puis il y a l'essai littéraire, et c'est de là que vient le mot essai, c'est quand même les essais de Montaigne. C'est ça notre source. Et Montaigne, quand il écrit ses essais, se met en scène, raconte, parle de lui, de sa bibliothèque, de ses tracas, de tout ce qu'on veut. Dans l'origine de l'essai, chez Montaigne, il y a cet engagement du narrateur de l'essai qu'on retrouve chez Diderot. Donc Diderot, ce sont des essais littéraires. Et moi, je revendique beaucoup cette appellation, y compris pour mes essais. Ce sont des essais littéraires, et d'abord parce que je cherche des formes aussi.
Est-ce qu'il y a l'idée d'essai, dans le terme d'essai, de tentative aussi ? C'est-à-dire avec des ratages, avec qu'est-ce qui fonctionne moins. Un petit peu d'ailleurs comme quand on lit Virginia Woolf, on voit bien que les gens tâtonnent, les gens se disent « je viens de dire ça, mais j'aurais pas dû le dire de cette manière, et je suis traversée par cette pensée, et je dois me remettre dans la conversation ».
Exactement, et je crois que c'est ça la vertu de l'essai littéraire et la grande vertu de Diderot. Vous savez, il y a peu d'auteurs moins dogmatiques que Diderot. Il a constamment été ses pensées sont labiles, mes pensées sont mécatins, ça veut dire aussi qu'elles bougent, elles se déplacent, il peut en changer. Et on a parfois, avant, quand on s'était pas aperçu encore de l'importance de Diderot dans le XVIIIe siècle, je dis ça parce que moi, dans mon extrême jeunesse, dans mes livres au lycée, Diderot occupait une page. Alors qu'aujourd'hui, on admet que c'est un des auteurs majeurs du XVIIIe siècle.
Alors que moi, je l'ai eu au bac. Voilà, ça s'est très mal passé, mais je l'ai eu au bac.
Mais il a fallu, Diderot a conquis sa place assez tardivement finalement. Et
justement
comme Virginia Woolf.
Oui.
C'est-à-dire Virginia Woolf, quand moi je l'ai lu, c'était considéré comme un auteur important, mais peut-être pas comme un auteur majeur du XXe siècle, ce qui est aujourd'hui la place qu'on lui reconnaît. Et Diderot, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que leur fortune littéraire a beaucoup évolué. Je l'ai vu de mon vivant.
Alors il y a la question de la traduction, il y a la question aussi des chapelles, tout à coup des relecteurs, des maisons d'édition. Mais pourquoi ils sont devenus majeurs selon vous? Vous avez employé ce terme, Mélinda Cannon, de ce qui m'intéresse quand même dans les deux, même si on n'est pas obligé de forcer de les mettre forcément ensemble. Vous avez dit, il y a un oubli de soi.
Oui, moi, ça pour moi c'est capital. C'est-à-dire que ce ne sont pas des auteurs qui sont dans la posture, justement. Toute leur activité, c'est d'essayer de saisir quelque chose en s'oubliant eux-mêmes, en ne se mettant pas en avant. C'est ça quand Virginia Woolf dit que Joyce était gothique. Lui, il se met en avant. Vous savez, il y a des auteurs comme ça qui sont un peu cabotins. Aragon, Nabokov et Joyce, sans doute. Et puis, il y a ceux qui sont uniquement dans le faire. Et Diderot, il y a ça chez Diderot. Il y a vraiment... Alors lui, il a montré, par le sort qu'il réserve à ses œuvres de son vivant, il a été vraiment dans le don de soi, dans le travail qui est jamais dans la posture. Mais c'est pour ça qu'on l'a, je crois, mal identifié pendant longtemps. On disait c'est un auteur qui change tout le temps d'avis. Mais vous vous rendez compte comme c'est merveilleux un auteur qui est capable de changer d'avis, qui est capable de douter, de se dire je me suis peut-être trompé, maintenant je vais dire autre chose. Et ça, pour moi, c'est un écrivain du doute. Et c'est, à mon avis, un essai, c'est fait pour ça aussi. C'est fait pour mettre en forme le doute, l'hésitation, la pensée qui se cherche.
Ce qu'on a exactement dans les romans de Virginia Woolf.
Exact.
I'm watching and waiting. Hello, Sam. Hello, Joe. I'm waiting and watching. Hello, Max. Hello, Bob. I hope and I yearn. Hello, Bill. Hello, Phil. Just for his return. Hello, fellas. Thanks for the present of the silver blue mink. Thanks for the plane and the ice skating rink. Thanks for the yacht and for the solid gold sink. Thanks a lot, but no thanks. Thanks for the Scrabble set with platinum board. Thanks for the factory once known as Ford. Thank you for finding me the famous lost chord. Thanks a lot, but no thanks. For I am just a faithful lassie, waiting for a faithful lad. And there's no gift, however classy, by which this lassie can be had. Thanks for the banks and for the Santa Fe line. Thanks for the darling uranium mine. But I'm a gal with only one valentine. Thanks a lot, but no thanks. Thanks a mil, but no thanks. Oh, thanks for the champagne. And thanks for the state of Maine. And thanks for that autographed picture of John Wayne. Thanks a lot, but no thanks for the cruise. And thanks for the oil wells that ooze. And thanks for that pair of Fred Astaire shoes. Thanks a lot, but no, 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 for us. I'm just a faithful lassie, waiting for a faithful lad. And there's no gift, however classy, by which this lassie can be had. Thanks for the banks and for the Santa Fe line. Thanks for the darling uranium mine. But I'm a gal with only one valentine. Thanks a lot, but can't you see? You can woo me and pursue.
cette chanson, Belinda Cannon, pour introduire cette séquence de fin d'émission après avoir évoqué l'œuvre, enfin les deux œuvres qui ont transformé votre vie, Woolf et Diderot, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que décidément vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi? Et je dis tout de suite que comme vous avez parlé de Woolf et Diderot, vous avez même donné deux auteurs que vous n'aimez pas.
Oui, vous voyez, j'essaye d'être honnête. Mais non, c'est moins agréable de parler des auteurs qu'on n'aime pas, évidemment. Moi, j'aime
ça
beaucoup.
Permet de mieux comprendre pourquoi vous en aimez d'autres.
Oui, certainement. Mais c'est plus facile d'être dans l'admiration, qui me plaît bien mieux. Alors, les deux auteurs, je n'en suis pas fière, parce que je suis sûre que ce sont de grands auteurs. Le premier, alors ça c'est... Non, je suis vraiment sûre que c'est un grand livre, c'est « Au-dessous du volcan », de Malcolm Lowry. Je lis... deux pages, j'ai dû essayer trois ou quatre fois, je lis deux pages et le livre me tombe instantanément des mains à cause probablement des descriptions géographiques du lieu. Je trouve que c'est une entrée en matière complètement décourageante, les deux premières pages ou les trois ou quatre, je ne sais plus, d'au-dessous du volcan. Et de ce fait, je n'ai jamais dépassé ces deux ou trois premières pages, alors qu'il est très probable que c'est un chef-d'œuvre. Je regrette, c'est comme ça. J'ai vu le film qui en a été tiré, en revanche, et c'est vrai que je n'ai pas du tout aimé le personnage dans le film. Je n'ai pas du tout aimé le personnage principal qui est complètement...
Donc c'est Geoffrey Firmin, c'est un consul britannique au Mexique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, voilà, c'est un narrateur qui est alcoolique, donc vraiment on est dans une sorte d'ivresse. Je fais comme si je l'avais lu, mais je ne l'ai jamais ouvert. Donc je vous fais totalement confiance, Belinda Cannon, pour ce ressentiment. Ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'était un chef-d'œuvre aussi.
Mais non, mais j'en suis persuadée. Mais ce personnage complètement alcoolique et complètement toujours très, dans le film en tout cas, c'est comme ça, très bien habillé de blanc, etc. Et ivre. Enfin, c'est une posture de toute façon qui ne me plaît pas dans la vie en plus. Ça ne m'intéresse pas tellement, ce genre de personnage. Bon, voilà. Donc, je ne l'ai jamais lu et j'ai tort, j'en suis persuadée. Qui sait d'ailleurs si après notre émission, je ne vais pas essayer une nouvelle fois.
Vous reviendrez pour en parler pendant une heure. Et le deuxième livre, alors?
Alors, le deuxième livre, j'en ai lu un peu plus. C'est « L'homme sans qualité » de Robert Mouzil. J'en ai lu peut-être, je ne m'en souviens pas, mais comme je me suis reprise aussi à plusieurs fois, donc je suis quand même tenace. J'ai dû en lire 150 pages, 200 pages, et puis...
Ah, quand même
fin... Ah oui, oui.
Bon, après, c'est
et puis à la
volume,
fin, mais... c'est un énorme, je ne sais pas combien de pages, ça dépend des éditions, mais c'est en deux volumes quand même, en poche. Et après, ça me tombe des mains. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup Mouzil, tout ce que je sais de lui. J'ai lu des petits textes ou des extraits sur la bêtise. La bêtise m'intéresse toujours. Donc, j'aime beaucoup. Je sens que c'est un auteur capital, mais... il me résiste.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux textes ressemblent quand même fortement dans l'état d'esprit à Virginia Woolf, c'est-à-dire à ce narrateur, aux impressions, c'est-à-dire qu'il y a l'ivresse, et puis dans L'homme sans qualité, voilà, c'est aussi la vie d'un intellectuel. C'est un livre qui est beaucoup plus politique. Hein. De ce point de vue-là, on est vraiment au début du XXe siècle, il y a les guerres mondiales qui arrivent. Enfin, on est quand même dans cette ambiance beaucoup plus politique, mais voilà, on pourrait se dire c'est quand même des livres assez proches en termes de temps, de géographie, d'écriture.
Oui, ben, ils appartiennent, disons, en gros à la même période. C'est pour ça qu'ils se ressemblent aussi. Mais il n'y a aucune commune mesure avec le travail, encore une fois, les techniques narratives que met au point Virginia Woolf pour essayer de saisir le réel virevoltant. Vous savez, elle dit que c'est comme si des pluies d'atomes... Elle essaye de saisir les pluies d'atomes qui tombent sur le personnage. Et sur les personnages. Et ça, ils ne le font pas, les deux autres, en revanche. Ces pluies d'atomes, c'est-à-dire le microscopique et en même temps le grand.
Merci beaucoup, Belinda Cannon. De vous, on peut lire Venir d'une mère, paru aux éditions Stock dans la collection Ma nuit au musée. Aussi aux éditions Stock, votre recueil de nouvelles, Les Vulnérables, où vous reprenez justement cette technique littéraire, voilà, de flux de conscience. Vous avez cité, je l'ai cité, Comment écrivent les écrivains aux éditions Thierry Marchais. Je cite aussi Narration de la vie intérieure, c'est paru aux éditions PUF. Et pour lire Mrs. Holloway, alors là, moult disponibilité, Gallimard, Flammarion et POL. Et un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation et à la lecture des textes avec Anaïs Isbert, à Anthony Thomasson à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.